Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et ce soir, nous allons donc continuer sur le livre de l'Apocalypse. Et nous avons commencé à voir pas mal de choses sur ce livre, qui est vraiment un livre extraordinaire. Dans lequel il y a des puissantes révélations sur beaucoup de choses. Des puissantes révélations sur le monde invisible. Sur la fin des temps. De puissantes révélations aussi, bien sûr, sur ce que nous deviendrons grâce à la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que, en toute chose, la Bible numéro un est le livre d'un royaume. Avec un roi et des sujets. Pensez toujours, quand vous lisez la parole, à cela. Un roi qui a voulu étendre son royaume sur la terre, sa création. Il confie sa création aux hommes, Adam et Ève. Mais il y avait un ennemi dans le coin. Et Adam et Ève ont donné la gestion des systèmes de ce monde à Satan. Et depuis ce jour-là, la terre est un chaos. Et l'homme naît et l'homme meurt sur cette terre. Et Dieu est en train de se préparer un peuple. Parce qu'il va récupérer la gestion de sa propriété. Donc il est en train de restaurer son royaume. Et nous en faisons partie de cette restauration. Et après, il viendra instaurer son royaume. C'est-à-dire qu'il va recréer toute chose pour que ce soit sans corruption. La corruption du péché, avec des êtres parfaits, et là, son royaume sera pleinement instauré sur sa propriété. Et entre-temps, il y a des étapes. Et nous faisons partie de ces étapes. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es entré dans le royaume. Mais pour l'instant, ton salut n'est pas consommé, accompli. Tu es sauvé, mais tu n'es pas encore passé par toutes les phases finales de ton salut. Et particulièrement, l'exemple typique, c'est que notre corps est encore un corps qui est voué à la corruption. Donc, l'Apocalypse va nous montrer tous ces événements qui vont se produire jusqu'à temps que Dieu vienne instaurer son royaume sur une terre qu'il aura recréée sur sa surface. Nous verrons cela précisément. Donc Jean va recevoir la révélation finale de l'Écriture. Apocalypse en français vient du mot grec apocalypsis qui est révélation. Et je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse, au contraire. J'arrive toujours pas à comprendre combien les prédicateurs utilisent ce livre pour faire peur aux chrétiens. Non, c'est un livre qui nous montre la victoire finale de celui que nous servons. Qui nous montre l'instauration pour l'éternité du royaume de Dieu.
Satan,
qui nous montre la défaite irrévocable de Satan et d'une façon effective sur la terre. C'est un livre rempli de victoires. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir une grande parenthèse sur la tribulation. Et Dieu en donne des précisions gigantesques. Il en avait déjà parlé et fait prophétiser à certains nombres de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus en a reparlé donc dans Matthieu aussi. Et là, nous avons tous les événements. Avec évidemment le plan de l'Église. Donc nous avions vu au premier chapitre, Jean fait des salutations. Il nous montre comment il a reçu sa révélation. Il nous donne la révélation qu'il a reçue à propos de Jésus glorifié. Chapitre 2, nous savons que, chapitre 2 et 3, pardon, nous avons le message aux sept églises. Et on en a suffisamment parlé. Puis d'un seul coup, à partir du chapitre 4, il va y avoir une nouvelle vision. Jean va se retrouver en esprit, je vous ai montré différentes visions. Et Jean se retrouve à recevoir une vision du ciel. Absolument incroyable, fabuleuse. Et nous avons comparé les visions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous avons vraiment vu que les visions de l'Ancien Testament étaient très limitées au trône. Ils voyaient le trône, donc de Dieu bien sûr, et ils voyaient les chérubins, mais à part ça ils ne voyaient pas grand chose. Et dans le Nouveau Testament, nous avons cette révélation complémentaire. Bien sûr, exactement ce qu'Ézéchiel a vu, et particulièrement les chérubins, qu'il décrit vraiment au chapitre 1 et au chapitre 10 de son livre d'une façon particulière. Puis on a quelques révélations complémentaires avec Ésaïe, d'autres révélations avec David dans les psaumes, mais là dans l'Apocalypse de Jean chapitre 4, là on a vraiment une image globale du ciel, là où nous allons aller quand nous allons mourir. Et là, on voit très bien le trône, tout ce qui entoure le trône. Nous avons tout décrit. On a vu aussi que là, il y a des gens. Révélation nouvelle par rapport à l'Ancien Testament. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, personne n'allait au ciel. Même Élie et Enoch n'ont pas été au ciel, au troisième ciel. Je vous rappelle, ils sont morts d'une mort un peu particulière. Mais leur esprit, leur âme n'ont pas été au troisième ciel dans la présence de Dieu. Parce que si Élie et Enoch pouvaient aller directement au troisième ciel, ça voudrait dire ni plus ni moins qu'il y aurait eu un salut en dehors de Jésus. Non, ils sont descendus dans le séjour des morts, plus précisément dans le sein d'Abraham, et ce sein d'Abraham a été vidé lorsque Jésus est venu visiter ce sein d'Abraham. Ce fait nous est relaté dans Éphésiens 4, où tous ceux qui attendaient le Messie, qui avaient foi dans le Messie, qui avaient marché avec Dieu dans l'Ancien Testament avant la résurrection de Jésus, étaient prisonniers dans le sein d'Abraham. Ils ne souffraient pas, mais c'était un lieu d'attente. Et Jésus est descendu dans ce lieu, les a fait naître de nouveau. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il a libéré les captifs. Et ils ont été à ce moment-là au troisième ciel. C'est là où tous les saints de l'Ancien Testament et tous ceux qui ont marché avec Dieu, dont nous ne connaissons pas les noms, qui ne sont pas relatés dans l'Ancien Testament, mais qui marchaient avec Dieu, qui ont eu des révélations de Dieu. Je prends souvent les exemples de Job. Job était un arabe. Il était en Arabie Saoudite, mais il avait soif de Dieu et il a marché avec Dieu. Et lui a été, quand il est mort, il a été dans le sein
d'Abraham.
Et ensuite,
Hanyuma,
quand Jésus est ressuscité entre les morts,
Jésus
est venu ouvrir le sein d'Abraham.
Il a
fait naître de nouveau toutes ces personnes.
Hein,
et à ce moment-là, ils sont sortis du sein d'Abraham. Et ils ont été au troisième ciel. Alors, au chapitre 4, nous avons cette révélation fabuleuse. Et je vous ai fait remarquer qu'à partir du chapitre 4, nous n'avons plus l'église sur la terre. Donc, tant qu'on parle du chapitre 1, 2 et 3 d'Apocalypse, c'est très clair, l'église est là. Et d'un seul coup, à partir du chapitre 4, l'église, vous
ne
la voyez plus. On ne fait plus mention de l'église. Pourquoi ? Parce qu'elle a été enlevée. Alors, chapitre 4, vous voyez la vision du ciel. Et chapitre 5, c'est là où nous en sommes. Nous avons vu qu'on nous parle d'un livre scellé de sept sceaux qui vont être évidemment les jugements de Dieu. Et je vous rappelle qu'actuellement, Dieu ne juge pas la terre. Tout ce que vous pouvez voir comme malheur, comme problème sur cette terre n'a rien à voir avec Dieu. Évidemment, les païens mettent toujours, vous disent toujours, ah, s'il y avait un Dieu, comme les chrétiens le disent.
Hein,
on entend toujours ces trucs-là. Alors, pourquoi ? Alors, on n'aurait pas toutes ces famines.
Hein.
Alors, tous ces pauvres innocents ne seraient pas morts. Alors. Ça, ce sont les raisonnements des païens, régulièrement. Des gens athées. Si vous diront ça, mais pourquoi Dieu ne fait rien ? Vous savez, quand ils sont dans le malheur, pourquoi Dieu ne fait rien ? Et tu dis, mais tu ne crois même pas en Dieu. Pourquoi Dieu ne fait rien si tu n'y crois pas ? Vous savez, beaucoup de païens ont des réflexions bêtes comme ça. Dieu ne juge pas la terre aujourd'hui. Toute la pourriture, tout ce que vous pouvez voir, toutes les injustices, c'est dû au mauvais gestionnaire. C'est-à-dire au diable et à ceux qui veulent le servir. Et ils sont très nombreux pour l'instant. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes pour l'instant des occupants, des colonisateurs sur cette terre. Mais un jour, nous partirons. Et nous avons étudié comment nous allons partir d'ici. Et ça, c'est très intéressant. Donc, à partir du chapitre 5, il va y avoir le déclenchement des hostilités de la part de Dieu. Dieu dit maintenant, ça suffit. Mon évangile a été prêché. Vous avez eu des occasions de vous donner à Christ. La grâce était là, ouverte pour tout le monde. Le pardon des péchés gratuitement, sans qu'il y ait un gouvernement mondial qui peuvent persécuter mon peuple. Mais maintenant, je vous ai montré mon amour. Mais maintenant, je vais vous montrer aussi que je suis un Dieu de jugement. Et là, Dieu va bombarder la terre. Et là, on va voir, c'est vraiment des actions de jugement à partir des anges. Maintenant, avant de comprendre tout cela, nous sommes obligés de mettre trois fondations. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas facilement. La première fondation que nous avons mise, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous avons vu les différents événements qui constituent cet enlèvement de l'Église. Et quel est l'objectif pour que Dieu enlève son Église ? Eh bien, nous le savons. Ni plus ni moins, c'est pour protéger son Église. Avant de déclarer la guerre, vous enlevez votre ambassade. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes là avec son message. Donc Dieu va enlever son Église. Et après, il va bombarder de ses jugements. Et nous verrons, il va y avoir pas mal de gens qui vont se convertir même pendant la tribulation. On va en parler. Mais ils vont payer cher le fait de croire en Jésus. Beaucoup vont payer même de leur vie. Et nous verrons pourquoi, au fur et à mesure. Nous allons vraiment étudier tout cela, c'est vraiment intéressant. Merci pour la grâce. Vous savez, moi, des fois, il y a des jours, je me réveille et je me dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Vous savez, souvent, on est très ingrat envers Dieu.
Seigneur,
tu vois mes problèmes. Le jour où tu seras dans la gloire, tu diras, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu être bête de me plaindre. Tu me réservais tellement, tu me réserves tellement de
choses.
Faites attention. Je vous garantis.
Des
fois, quand je vois des païens, ils sont aveuglés.
Ils
refusent Jésus. On
leur
a annoncé l'évangile 50 000 fois. Ils refusent le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Merci.
J'ai
la grâce de pouvoir croire et de te recevoir comme sauveur personnel. Merci Seigneur. Vous savez, plus vous allez loin dans le monde spirituel, plus vous ne pouvez qu'avoir que de la gratitude envers Dieu. Parce que vous savez, quand on est sauvé depuis un an ou deux,
bon,
3, 4, 5, des fois, ce n'est pas encore facile. Mais quand vous avez 10, 20, 30 ans dans le Seigneur, et que vous regardez les gens qui n'ont jamais accepté Jésus, peut-être vos anciens amis que vous avez perdu de vue depuis des années, peut-être des gens de votre famille, ou d'autres personnes, que peut-être vous admirez, 20, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard,
oui,
ils partent sans le Seigneur. Ils décèdent de choses dramatiques. Des gens qui peut-être pour vous étaient même à la limite avant d'être sauvés, entre guillemets, des idoles que vous admiriez, des grands chanteurs que vous aimiez, des acteurs de cinéma ou toutes sortes de choses. Et puis des années plus tard, vous apprenez, ils sont morts. Puis d'un seul coup, on fait une rétrospective de leur vie. Et des gens vous admiriez.
Et
vous pouvez vous dire, oh là là là, c'est terrible. Remerciez toujours pour ce cadeau exceptionnel de ce salut, même dans vos pires jours. Parce que je vous garantis, quand vous serez là-haut, vous comprendrez pleinement la puissance de ces
paroles.
Donc chapitre 6, c'est le déclenchement des hostilités. Dieu enlève son église. Des centaines de millions, voire peut-être des milliards d'ici là, de personnes qui sont au troisième ciel. Leur esprit et leur âme, reviennent sur la terre, sur un ordre divin, et ils ressuscitent. Parce que nous savons que c'est d'abord cela qui va se passer. L'enlèvement de l'Église, premièrement, les morts vont ressusciter. Deuxièmement, nous avons vu les vivants, nous les vivants, qui seront restés, et qui seront encore dans leur corps, ils vont être transformés. Et tout ça, nous savons que toutes ces choses-là vont se passer en un clin d'œil. Évidemment, ça va être un grand, 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 grand phénomène pour le monde. Là, le monde ne pourra plus discuter. Et diront, mais ils avaient raison, ces chrétiens. Et nous savons que ensuite nous allons tous ensemble être réunis dans les airs pour le Seigneur, avec le Seigneur. Et nous avons vu aussi que c'est le premier retour de Christ. C'est aussi la première phase de la première résurrection. Alors que va-t-il se passer après? Pour nous, parce qu'on sait que là il va y avoir 7 ans très particuliers. Ces 7 années, ce sont des années où il y aura la tribulation sur la terre. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous allons nous retrouver au troisième ciel. Et là, nous allons étudier ce soir la deuxième fondation pour comprendre la tribulation. Nous allons vivre un événement pendant 7 ans, alors que nous sommes au troisième ciel avec Jésus. Là, nous avons tous nos corps, soit ressuscités, soit transformés, c'est-à-dire corps incorruptible. Vous vous rappelez les deux caractéristiques de l'incorruptibilité. Plus de possibilités de péché avec votre corps. Et plus non plus, je dirais, le corps devient immortel. Non pas non mortel, mais immortel. C'est-à-dire que la vieille histoire avec Adam et Ève ne pourra plus jamais se reproduire. Rappelez-vous qu'Adam et Ève avaient un corps non mortel. Mais comme ils ont péché, leur corps est devenu immortel.
Nous,
Dieu nous revêtira d'un corps incorruptible.
C'est-à-dire,
nous ne pourrons plus pécher. Et nous ne pourrons plus, ce corps ne pourra jamais mourir. Voilà, c'est les deux parties. Alors maintenant, nous allons étudier quelque chose très important pour nous.
Que
nous allons vivre pendant que sur la terre, ils vont vivre des horreurs. La tribulation. Parce que nous savons qu'entre le premier retour de Jésus et le premier retour, rappelez-vous, c'est pour son Église, et le deuxième retour, là il reviendra pour Israël, il y a 7 ans. Nous étudierons dans la troisième fondation les 70 semaines d'année de Daniel. Parce que cette dernière semaine d'année, c'est-à-dire ces 7 dernières années, c'est la tribulation. Et il y a des choses qui vont se passer au ciel. Et il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Ce qui va se passer au ciel, ça va être ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et ce soir, nous allons parler du tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, c'est vraiment quelque chose de très particulier devant lequel nous allons passer. Et nous allons découvrir ce que veut dire ce tribunal de Christ. Parce que quand on appelle tribunal, en général on se dit, oh, ça sent mauvais. Nous verrons cette expression tribunal de Christ, bien évidemment. Nous allons lire plusieurs textes. Et là, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Nous allons commencer par le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 10 particulièrement va m'intéresser. Mais nous allons lire à partir du verset 7. Puis nous expliquerons cette expression tribunal de
Christ.
D'abord, Paul dit, car nous marchions par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux regarder bien quitter ce corps, donc ce corps mortel, ce corps corruptible, sous-entendu, et demeurer auprès du Seigneur. Je vous rappelle que demeurer auprès du Seigneur, c'est aller au troisième ciel dans la présence du Seigneur. Ensuite, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Regardez bien ce que Paul dit ici. Nous nous efforçons, nous faisons nos efforts. Pourquoi faire ? Pour lui être agréable, pour être agréable à Dieu, pour être agréé de Dieu, approuvé de Dieu. C'est ce que le mot grec veut dire ici. Soit que nous demeurions dans ce corps, ou soit que nous le quittions. Verset 10, car, regardez bien, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu peux lire le verset 10, s'il te plaît.
Kumurongo w'icumi ngo kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri ari ciza canke ari kibi.
On va relire un petit peu le verset 9 s'il vous plaît. Puis on va relire après le verset 10. C'est pour cela que nous nous efforçons. Littéralement, c'est mettre un point d'honneur. Nous faisons notre honneur. L'honneur. Notre honneur, c'est d'essayer de lui être agréable. Verset 10. Donc, nous devons comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tribunal de
Christ.
On va lire un autre texte qui nous parle un peu de la même chose. Même beaucoup de la même chose qui est dans Romains 14. Romains chapitre 14. On va lire à partir du verset 7. Et là, c'était Paul qui, en fait, expliquait plusieurs choses aux Romains, donc aux chrétiens romains. Il leur disait plusieurs choses à propos du comportement qu'ils avaient vis-à-vis des autres. Il leur expliquait d'une part de faire attention à des exemples et de ne pas être une occasion de chute. C'était à propos de type de nourriture, de viande, etc. C'est-à-dire, l'idée, c'était, bon, si pour ton frère, il y a quelque chose qui est une occasion de chute, même si tu as raison dans le fond, fais quand même attention afin qu'ils ne prennent pas ça et puis que ça ne l'amène pas ben finalement à rétrograder. En gros, c'était ça. La deuxième chose que Paul leur disait, il leur disait, faites attention de ne pas vous juger les uns les autres. Et il va expliquer pourquoi. Donc, on va lire à partir du verset 7. Et il est dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus,
Tu
vis pour lui. Vous savez, l'homme est obligé d'être esclave de quelqu'un. Vous savez, il y a une espèce de proverbe en français où ils disent, les gens là, qui se disent vivre pour eux-mêmes, ils disent, ni Dieu ni maître. Désolé, ça n'existe pas ça. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du diable. Et moi, je préfère être esclave de celui qui est excellent et qui est parfaitement bon.
Mais
la Bible est claire là-dessus. Tu vis pour le Seigneur. Ou alors tu vis pour le diable. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu es esclave du Seigneur, tu veux obéir au Seigneur. Soit tu es esclave du pire des maîtres que tu peux avoir. Nous sommes au Seigneur, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque, regardez bien, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est dit ça.
Ariko weho niki gituma uhinyura mwene so cyangwa ucira urubanza mwene so kandi nawe niki gituma ukengera mwene so kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana.
Ensuite, il est dit, verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte, regardez bien ici, rendra compte, sous-entendu, à Dieu pour lui-même. Verset
12.
Dis à toi-même, tu te dis à toi-même, dis-le maintenant très fort, je vais rendre des comptes à Dieu pour moi-même.
Je vais rendre compte à Dieu pour moi-même.
Pas pour mon voisin.
Pas pour mon voisin.
Ah, parce que souvent, c'est le problème des chrétiens.
Il
y a des fois, les chrétiens sont comme ça. Ils se jugent les uns les autres. Mais nous aurons des comptes à rendre au Seigneur pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. Tu rendras des comptes pour toi-même. Voilà, je commence à sentir qu'il y a des gens qui commencent à se tendre sur leur chaise.
Non,
je vais t'expliquer ce que la parole de Dieu dit à propos de ça.
1
Corinthiens chapitre 3. Nous allons continuer et je vais vous montrer un certain nombre de choses. 1 Corinthiens chapitre 3. Paul va nous parler un peu des bébés spirituels au départ, des chrétiens donc charnels.
Il explique
qu'il y en a un qui a prêché et les gens sont nés de nouveau.
Puis
il y en a un autre qui a arrosé, qui a enseigné. Et il commence à dire, au verset 9, donc. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte et un... J'ai posé le fondement, pardon, comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais regardez bien, regardez bien. Là, il parle du rôle des serviteurs de Dieu. Il y en a un qui va prêcher l'évangile, l'autre qui va enseigner, mais il dit, mais, attention, attention, mais... Mais, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc ici, il responsabilise chaque individu, chaque chrétien. Ça veut dire que l'évangéliste, le prédicateur prêche l'évangile, c'est son rôle.
Ngoko nahawe ubuntu n'Imana nashizeho itangururo nkubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako. Ngo ariko umuntu wese, urumva abihaye uruhara umuntu wese, ngo niyiyubare uko yubakako.
Le pasteur, l'enseignant va aider à ce que le peuple de Dieu grandisse.
Umwungere, umwigisha arafasha
kugira ngo. Donne la parole, arrose.
Abantu bakure akavomerera agatanga ijambo.
Il va tout faire, il doit créer l'atmosphère pour que les chrétiens grandissent.
Akore ibishoboka ngo abakristo bakure.
Mais Paul met un mais ici.
Ariko Paul acharagabisha.
Il dit OK.
Avuga ati
sous entendu ce qu'il est en train de dire ici.
Mais ane majambo ariko aravuga.
Les ministères sont donnés.
Avuga ati bikogwa by'Imana birahari.
Pour dispenser la parole de Dieu.
Kugira ngo bitange ijambo ry'Imana.
Mais les ministères.
Ariko ibikogwa by'Imana.
Ne sont pas donnés.
Ntibitangwa.
Pour forcer les gens à pratiquer la parole de Dieu.
Kugira ngo bigomere abantu gukoresha ijambo.
Nous avons une onction pour prêcher et enseigner la parole. Nous n'avons pas d'onction pour faire pratiquer la parole aux chrétiens. La façon dont chacun va bâtir, il en est responsable. Un serviteur de Dieu est responsable de son ministère et de la vision que Dieu lui a donnée. Mais il ne peut pas être responsable sur l'obligation de résultat, c'est-à-dire comment les gens vont être obligés de pratiquer la parole. Donc Paul dit ici, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le fondement, bien sûr, c'est Jésus. Ça, c'est le salut. Et regardez bien ici ce qu'il va expliquer. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire sur Jésus, sur le salut, sur la nouvelle naissance, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi ? Une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Regardez bien. Recevoir ou perdre sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Qu'est-ce que Paul nous dit ici ? D'abord, il nous parle du mot récompense. Avant, nous avons parlé de plusieurs textes qui nous parlaient de quoi ? Du tribunal de Christ ou de Dieu. Paul nous parle dans ce passage d'abord d'un fondement, Jésus. Il nous parle du rôle des ministères. Il nous parle aussi du rôle de chaque chrétien. Et de leur responsabilité. Paul dit le fondement c'est Jésus. Et recevoir le Seigneur c'est la grâce de Dieu. La grâce, tu ne peux pas la mériter. Tu as reçu Jésus parce qu'il t'a fait grâce et tu ne peux pas faire autre chose que lui dire, Seigneur, je n'en étais pas digne. Mais Seigneur, tu m'as gracié. Tu as pardonné gratuitement mes péchés. Et personne ne peut se vanter en disant, moi j'ai gagné mon salut. Non, parce que la Bible nous dit bien dans Éphésiens 2 que nous sommes sauvés par la foi. et par la grâce. La grâce étant une faveur imméritée. Quelque chose pour lequel je ne peux pas œuvrer. C'est un cadeau gratuit, faveur imméritée, un don que Dieu me donne. Si je me mets dans les conditions, sans ne rien faire, je dirais, d'œuvre, pour essayer de gagner mon salut. Par contre, ici, il y a un mot qui est utilisé plusieurs fois. Le mot récompense. Et le mot récompense est très clair dans le grec. C'est le mot mistos qui veut dire quelque chose pour lequel tu devras travailler pour l'avoir.
J'aime
dire comment ça. Oui, le salut est gratuit. Mais Dieu va nous donner des récompenses selon ce que nous aurons fait dans notre corps. Et chacun d'entre nous allons passer devant le tribunal ou le jury de récompense de Dieu, non pas pour savoir si nous serons sauvés ou pas sauvés, parce que nous sommes sauvés, mais pour attribuer nos récompenses. Et nous allons fouiller dans la parole de Dieu pour essayer de mieux comprendre. Et nous avons vu ici qu'il y a plusieurs choses.
C'est
recevoir une récompense, mais il est parlé aussi de perdre sa récompense. Il n'est pas parlé de perdre son salut. Dans ce passage, c'est très clair. Il
n'est
absolument pas du tout parlé de perdre son salut. Regardez bien verset 15 maintenant. Verset 15, il est dit: si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire si tout ce qu'il a fait dans sa vie est brûlé par le feu de Dieu, il perdra sa récompense. Mais il est dit, pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Donc là, on voit clairement que le salut ne dépend pas des œuvres. Alors je sais, souvent les gens disent, oui, mais alors attends, moi je connais quelqu'un. Qui, blablabla, blablabla. Alors, d'abord, ne mettez pas, je dirais, comme, prenez pas comme argent comptant, comme on dit si bien en français, le fait que quelqu'un s'intéresse à Dieu, lit sa Bible pendant un temps et prie, comme s'il était forcément réellement sauvé, né de nouveau.
Lire
sa Bible ne sauve pas. Amen.
Amen.
Être baptisé ne sauve pas. Fréquenter une église ne sauve pas. Faire des belles prières ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est une sincère repentance. Encore faut-il qu'il y ait une conviction de péché au départ. Et la foi en Jésus-Christ. Et à partir de ça, il va se passer un miracle. La nouvelle naissance. Donc avant de parler de quelqu'un, en disant cette personne, elle priait, elle venait à l'église, blablabla, est-ce que cette personne était née de nouveau et qu'elle portait les fruits réels d'une nouvelle naissance? Parce que ça doit être clair. Est-ce qu'elle avait un témoignage réellement de salut? Vit dans le péché. Le jour où elle a reçu Jésus, et qu'elle est capable de dire quand est-ce qu'elle a reçu Jésus, pas en disant, ben, à partir d'environ entre 2001 et 2009, j'ai commencé à devenir chrétien. Petit à petit. Tu deviens pas chrétien petit à petit. Sinon, tu deviens un adhérent petit à petit. Et le vrai chrétien, il passe par un miracle. Et il te dira ce jour-là, j'avais une conviction de péché. Je savais que si je mourais
maintenant,
j'allais en enfer directement. Et j'ai crié à Dieu. Et il est venu me sauver. Et je sais que depuis ce jour-là, je suis sauvé. Le salut est quelque chose de radical. Donc, avant de dire que quelqu'un est retourné dans le péché, vous savez, il y a des gens qui, parfois, parce qu'ils font de sérieuses gaffes dans leur vie, ils ont des gros problèmes, et ils commencent à avoir des pressions familiales, des pressions à partir de la justice, toutes sortes de pressions. Et surtout dans les pays où nous sommes, les gens vont se cacher dans les églises. Ça s'est vu, ça se verra encore. C'est pour ça qu'avant de conclure, regarde d'abord s'il y avait des fruits. Quand quelqu'un est sauvé, il doit y avoir des fruits. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que le parcours sera parfait. Ça, c'est autre chose. Maintenant, il y a des gens qui rétrogradent. Ils sont vraiment nés de nouveau.
Mais
qui rétrogradent. Ces gens-là ne perdent pas leur salut. Mais ils perdent leur récompense. Donc faites bien attention. Il y a deux types de personnes qui peuvent, entre guillemets, retourner dans le monde. Il y a les gens qui n'ont jamais été sauvés, qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui étaient des adhérents, des gens, des sympathisants, des gens qui auraient peut-être préféré les milieux évangéliques protestants plutôt que peut-être des églises très traditionnelles où ils trouvent que c'est plus ennuyant. Nous en avons des gens comme ça. Par contre, là, les deuxième type de personnes, ça, ces gens-là ne retournent pas vraiment dans le monde parce qu'ils n'ont jamais quitté réellement le monde. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ont toujours été dans le royaume des ténèbres. Par contre, il y a vraiment des gens qui sont nés de nouveau et qui ont réussi à se faire convaincre par l'ennemi de s'écarter de l'église, de retourner dans le péché. Ces gens-là ne perdent pas leur salut parce que l'Esprit de Dieu habite en nous éternellement. Et je vous rappelle qu'il y a des conditions très 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 difficiles pour réellement perdre son salut. La Bible laisse une porte entrouverte à cette doctrine dans l'Épître aux Hébreux, qui nous montre effectivement qu'il faut que ce soit des gens qui soient déjà dans une grande maturité spirituelle et qui renient volontairement Jésus-Christ. Et ces gens-là sont très rares. La plupart des gens qui rétrogradent sont des bébés spirituels parce qu'ils étaient déçus, parce qu'il s'est passé quelque chose, une tragédie dans leur vie ou dans leur entourage, parce qu'il peut y avoir X ou Y raison, sont retournés dans le monde. Mais ces gens-là, si vous les interrogez, ils vous diront: mais moi, tu sais, je crois toujours en Jésus, je prie. Ça m'arrive. Et sincèrement, là, je ne parle pas de gens qui font semblant. Ils savent que Dieu existe. Et Jésus est dans leur cœur. Mais leur conscience a étouffé. A étouffé ce que l'Esprit de Dieu voulait faire dans leur vie. Donc ce sont des gens qui vont passer au travers du feu. Parce que le salut, c'est par la grâce. Et moi, je ne soutiens pas une doctrine où les gens perdent leur salut à tous les coins de la rue, là. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas renaître de nouveau. On peut naître de nouveau une fois. Soit l'Esprit de Dieu est en nous pour l'éternité, c'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Il n'a pas rajouté de conditions à cela. Ou soit il y a vraiment le fait que quelqu'un va renier Jésus en toute conscience de cause, en ayant une maturité spirituelle. Et ça, c'est hébreu. Le péché qui mène à la mort, dont 1 Jean parle d'ailleurs. Mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, sinon ça demanderait une heure ou deux heures d'enseignement.
Donc
là, on voit, on parle de récompense. Le salut est gratuit, mais ta récompense, tu dois travailler pour cela. Tu dois travailler pour ta récompense. Et nous allons en parler aujourd'hui, de travailler pour sa récompense. On va d'abord continuer à lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 4. Et là, Paul va aussi nous parler du verset 1 au verset 5. Et on va un petit peu comprendre à propos des récompenses. Alors, il est dit donc, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, ça il parle des ministères, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Là, il parlait de sa conscience. Verset 5. Ah, pardon, verset 4, excusez-moi. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps. Oh, encore une fois. Juger dans le sens aussi de discerner. Hein. Le mot grec ici, c'est le verbe grec, c'est diakrino, c'est-à-dire c'est discerner, faire la part des choses, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est-à-dire le retour de Jésus, le premier retour de Christ, bien évidemment pour son Église, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera, regardez bien ici, les desseins des cœurs. Regardez la suite ici. Alors chacun recevra de Dieu quoi ? Recevra de Dieu la louange. Frères et sœurs, vous savez que vous allez recevoir plus ou moins de la louange de la part de Dieu. On va essayer de vous éclairer là-dessus, vous allez voir. C'est très simple, mais il faut bien comprendre. Quand nous prenons tous ces passages, Dieu nous dit clairement, nous allons tous passer devant le tribunal de Christ, plus précisément jury de récompense. Et par rapport à ça, chacun sera responsable de ses actions. La Bible est très claire, nous l'avons lu tout à l'heure. Donc c'est par rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas pour l'autre. Nous devons rendre des comptes à Dieu pour nous-mêmes. Ensuite, Dieu va nous donner des récompenses. Une louange. De sa part. Là, on va en parler. Alors, on va lire un verset biblique. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va regarder dans nos œuvres. Et je vais vous montrer ce que Dieu va rejeter et ce que Dieu va prendre. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 3, on l'avait vu tout à l'heure. Au verset 13. 1 Corinthiens 3, 13. Paul nous dit, cette traduction. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, il est dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ok ? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera. De quelle nature, j'aime bien ce mot là, je ne le vois pas trop, hein, de quelle nature est l'œuvre de chacun.
De
quelle nature? Il est dit le feu éprouvera. De quelle nature est l'œuvre de chacun? Le verbe éprouver, qui est d'ailleurs ici, mais il manque quelle nature, ça serait mieux. C'est le verbe grec dokimazo. C'est-à-dire mettre une chose, faire passer des tests à quelque chose pour savoir si cette chose vaut la peine d'être retenue, si elle est valable. Quand nous faisons des choses pour le Seigneur, je dis pour le Seigneur ou soi-disant pour le Seigneur, Dieu note tout ça là-haut. Ce jour-là, le Seigneur amènera à chacun de nous nos œuvres devant nous. Et il éprouvera ses œuvres. La nature de ses œuvres. On va parler des œuvres dans quelques minutes. J'en ai parlé un peu dimanche et on va continuer encore aujourd'hui à en parler. La nature de ses œuvres. Et il retiendra ce que lui, Dieu, juge qu'il doit retenir. Alors, dans nos œuvres, il y a deux types. Il y a des œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Des choses qu'il nous ordonne dans sa parole ou des choses qu'il te dit à toi personnellement. Quand tu pratiques sa parole, tu fais des œuvres. Tu pratiques, tu agis. Si tu pratiques ce que le Seigneur dit dans sa parole, il y a des choses qui sont créditées à ton compte pour tes œuvres là-haut. Et tu en auras une récompense. Seulement,
gusa,
seulement
gusa,
si tu ne t'es pas glorifié pour ça.
Nimba utabyihereje icyubahiro,
par exemple,
nk'akarorero,
tu es là, tu pries pour quelqu'un.
Ukabura ingaho ugasengera umuntu,
et la personne est guérie.
Uwo muntu agakira indwara.
Tu peux avoir deux attitudes.
Ushobora kugira inyifato z'uburyo bubiri.
Dire Seigneur merci.
Ukavuga uti Mana urakoze.
C'est juste un canal.
Nabaye igikoresho.
À toi toute la gloire.
Icyubahiro cyose kibe guhawe.
Ton compte est crédité. Par contre,
ariko,
tu pries pour la personne,
ugasengera umuntu,
elle est guérie,
agakira.
Steve, tu sais quoi? Oh oui, regarde là. Là, tu es bien, Steve. Steve, tu sais pas quoi? J'étais là. Le Seigneur m'a dit. Un ange m'est apparu. J'ai prié. J'ai prié. J'ai transpiré. J'ai ordonné au diable. Tu perds ta récompense. Matthieu chapitre 6. Faisons très attention à une chose. Aujourd'hui, nous ne sommes que des canaux. Je ne supporte pas quand des serviteurs de Dieu se font aduler, c'est-à-dire qu'ils se font pratiquement adorer, comme si c'était par eux. Et ils sont tout le temps en train de dire moi. Ils sont en train de perdre leur récompense. Et cette atmosphère-là, ça pue, excusez-moi de dire. Nous ne sommes que des canaux. Et nous devons créer une génération qui simplement comprennent que ce sont des canaux, prêts à laisser son amour et sa puissance passer au travers d'eux, pour qu'ils reçoivent, non pas nous. Tant que tu es dans ton corps, ne reçois jamais de la gloire. Ferme tes oreilles à la louange. La louange des hommes peuvent te tuer. Elles peuvent détruire ta destinée. Si cette louange trouve un terrain en toi, dans un cœur qui veut se glorifier, la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. Dieu ne cherche pas des gens compétents. Il cherche des gens disponibles. Maintenant, les compétences, c'est quelque chose en supplément. C'est très bien, il en faut. Parce que Dieu ne cherche pas des gens médiocres non plus. Et pour ça, nous devons changer vers l'excellence.
byiza kurushiriza.
Donc Dieu est clair. Il va éprouver. Il va éprouver la nature de la nature de notre œuvre. D'abord, si nous nous sommes glorifiés, il l'aura marqué là-haut. Et là, dans Matthieu chapitre 6, Jésus explique
des
choses très simples à propos des pharisiens. Les pharisiens qui aimaient quoi faire? Faire des œuvres et se montrer. Et Jésus parle ici qui perd la récompense. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Si tu reçois ta récompense dans ce monde, regardez le verset 1. Et regardez le verset 2. Verset 1 et verset 2. Verset 1, il est dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, car vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2, lorsque tu fais l'aumône, tu donnes. Il prend un exemple simple de la vie. Ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent, ou dans d'autres traductions, ils ont reçu leur récompense. Donc si tu fais quelque chose pour le Seigneur, que ce soit vraiment pour le Seigneur. Quand tu commences à porter des fruits, donne toute la gloire. N'oublie jamais cela. Si des gens commencent à dire, ah, c'était super. Et d'un seul coup, ça fait Tu ça, crucifie-le. Rapidement dans ta vie. Donne toujours la gloire à Dieu et pas avec une espèce de cirage de fausse humilité. C'est le Seigneur.
Alors,
tu prends toute la gloire. Sois vraiment sincère. Dieu te testera avec ça. Dieu te testera. Commence à porter des fruits. Dieu testera ce qu'il y a derrière la boîte là, extérieure. Au plus profond de ton cœur. Dieu dit dans Ésaïe 42, verset 8. 42, 8. Dieu dit bien, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pour l'instant, tu ne pourras jamais prendre de la gloire qui appartient à Dieu. Vous vous rappelez que dans 1 Corinthiens, il y a un moment où Dieu va nous donner la louange. Nous allons recevoir de la louange. Pourquoi ? Parce que là, nous serons capables de contenir, de supporter cette louange. Pour l'instant, tu n'es pas capable de supporter une louange quelconque. Donc donne toute la gloire au Seigneur. Il y a un jour où tu pourras recevoir la gloire de la part du Seigneur. C'est le jour où tu recevras ta récompense. Deuxième type d'œuvre où nous allons recevoir ou pas recevoir de récompenses, c'est des choses que le Seigneur nous a vraiment demandées ou des choses que le Seigneur ne nous a jamais demandées. Quand Dieu t'a demandé de faire des choses pour ta destinée, si tu fais cela, si tu as accompli ce que le Seigneur t'a demandé spécifiquement, là c'est vraiment la volonté spécifique de Dieu qui va te révéler alors que tu te mets dans la prière et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Là, le Seigneur te parle.
Mais
il faut que tu fasses de la façon dont il va te le dire de faire. Car Dieu dit dans Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées Et mes voies, c'est-à-dire vos façons de faire, ne sont pas mes façons de
faire. Donc là,
le Seigneur te parle.
Et
après, tu veux dire, Seigneur, comment faut que je fasse ça?
Et
là, tu accomplis ce qu'il te demande de faire.
Comme
il te demande de le faire.
Quand
il te demande de le faire. Et là, tu auras une récompense. Par contre, toutes les belles choses que nous aurons faites au nom de Jésus
et
que le Seigneur ne nous aura jamais demandé de faire, qui peuvent paraître même très bien aux yeux du monde et même très bien par rapport à l'Église de Dieu,
mais
que Dieu ne t'aura jamais demandé de faire.
Je vais
vous donner un exemple.
Ouvrir
une église. Vouloir implanter une église. Est-ce que ce n'est pas bien?
Oui,
c'est bien.
Mais
ça sera une œuvre dans laquelle tu auras une récompense.
Si c'est
vraiment le Seigneur qui t'a dit de
faire ça.
Là où il t'a demandé de le faire.
La
façon dont il t'a demandé de le
faire.
Et d'ailleurs, cette église ou cette œuvre ne pourra jamais prospérer si tu n'es pas dans le temps de Dieu. Dans la façon où Dieu t'aura demandé de faire les choses. Parce que sans son onction, tu ne peux rien faire.
Et
il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont ouvert des églises et qui ne sont pas du tout, qui ont consacré quasiment toute leur vie à ça. Et qui recevront récompense zéro pour ça. La récompense se gagne. La récompense, tu vas travailler pour la recevoir. Ta récompense sera donnée pour quoi ?
Pour
tout ce que tu vas accomplir.
Tu
vas prier un jour pour quelqu'un.
La
personne va venir au Seigneur.
Tu
recevras une récompense pour
ça.
Tu vas prier pour quelqu'un alors que tu ne verras pas cette personne spécialement.
Mais
le Saint-Esprit t'a parlé.
Et
tu pries pour cette personne. La personne reçoit quelque chose de spécial. Elle ne sait pas que c'est toi qui as prié. Tu recevras une récompense. Tu pries pour quelqu'un qui est guéri. Tu recevras une récompense. Tu donnes au Seigneur. Vous savez, même le fait de donner notre dîme au Seigneur, le fait de faire un certain nombre de choses que la Bible nous dit de faire, nous amènera une récompense. Et le jour où nous passerons devant ce tribunal, les gens viendront, les gens envers qui nous aurons été une bénédiction, ils viendront vers nous et nous diront merci. Parce que ce jour-là, j'étais malade et tu as prié pour moi. Mais tu vois, tu étais à l'autre bout du monde. Mais le Saint-Esprit t'avait parlé. Maintenant, je le sais. Parce que dans le ciel, nous saurons tout. Tout ce que nous avons fait réellement dans le Seigneur. Nous ne recevrons des récompenses que ce que nous aurons fait dans le Seigneur. Je ne pense pas que Dieu exposera nos gaffes au grand public. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut faire ça, nous humilier. Dieu va prendre, va mettre son feu.
Et
il va dire, voilà ce qui reste de ta vie.
Ce
jour-là, tu as parlé à quelqu'un, il a reçu Jésus. Ce jour-là, tu as prié pour un tel. Ce jour-là, tu as obéi à ma parole pour ça. Ce jour-là, tu as donné ça à telle personne. Ce jour-là, tu as fait ça. Ce jour-là, tu as fait ça, etc. Tu as donné à manger à cette personne. Tu as donné des habits à cette personne. Tu as fait ceci, tu as fait ça, etc. Toutes sortes de choses. Des plus spirituelles au plus simple, mais qui ont été de l'obéissance à la parole et à ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire. C'est deux choses importantes. À la parole, quand nous obéissons à la parole, mais aussi quand le Saint-Esprit met des promptitudes en nous,
où
nous révèle sa volonté spécifique par rapport à ce que nous devons faire. L'œuvre que Dieu nous demande à chacun d'entre nous par rapport au don qu'il nous a donné. Et ce jour-là, tous les gens que nous aurons impactés viendront et nous donneront la louange aussi. Et nous remercierons. Mais par-dessus tout, par-dessus tout,
ariko ikirenze ibyo,
le Seigneur nous donnera la louange.
Imana ubwayo iduha ishimwe ridukwiriye.
Donc tout ça, ce sera le tribunal de Christ.
Ibyo byose ni sentare ya Kristo.
Il y en a qui seront là.
Baraho.
Il y aura rien.
Arindire
aburishimwe. La Bible dit qu'ils seront sauvés comme au travers du feu.
Bibiri vuga ngo bazokizwa nk'abokowe mu muriro.
Alors vous allez me dire, d'accord, mais ces récompenses, c'est quoi? Est-ce qu'on aura des grandes coupes comme les tennisman? Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze? Non, c'est beaucoup plus glorieux que ça. Beaucoup plus glorieux que ça. On va regarder quelques, je dirais, traces de ces récompenses. La Bible va nous parler plusieurs fois dans la Bible d'abord de couronne.
Bibiliya iratubwira kenshi iby'impera.
1 Corinthiens chapitre 9 verset 25.
Abikorinto ba mbere 9:25.
1 Corinthiens 9 verset 25.
Abikorinto ba mbere 9:25.
Nous dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous pour une couronne incorruptible.
Kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira.
2 Timothée pardon chapitre 4 verset 8 2 Timothée 4 8
Timothée wa kabiri kane umurongo w'umunani.
2 Timothée 4 8 nous dit désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue.
Ngwe bisigaye mbikiwe igitsibo cy'ukugororoka ico mwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi kandi si jewe jenyere nzogihabwa ariko kandi nabakunze guseruka kwiwe bose bazogihabwa.
Maintenant regardons Apocalypse chapitre 3.
Reka turabire hamwe ibyahishuwe Yohana 3
verset 10 et verset 11.
Umurongo w'icumi na cumi na rimwe.
Apocalypse 3, 10 nous dit « Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de la tribulation, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Là, il parle de la tribulation. « Je vais te garder. »
Goko witondeye jambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bantu mu bihugu byose kugerageza ababa mwisi.
Comment est-ce que Dieu va garder son église de la tribulation?
Ni gute Imana izorinda ishengero ryayo?
L'enlèvement.
Izo idoza.
Verset 11.
Cumi na rimwe.
Je viens bientôt. Vous voyez, Jésus en parle ici. Garde ou retiens ce que tu as, regardez, et que personne ne prenne ta couronne.
Ngongiranze vuba. Wumire kucu fise ntihagire ugutwara igitsibo cyawe.
Dieu nous met en garde.
Imana iratugabisha.
Et nous dit faites attention.
Aturagaba.
Le salut est gratuit.
Mais
la récompense se gagne.
Ariko,
comment est-ce qu'elle se gagne? Par une vie qui doit être vraiment conforme à la parole.
Et
à ce que le Saint-Esprit va faire en nous, l'œuvre du Saint-Esprit
en nous.
Ce que tu fais dans le Seigneur n'est pas vain. Les gens à qui tu parles de Jésus, ton obéissance à
Christ,
tout ça ce n'est pas vain. Vous savez, parfois on est là, on est dans des moments difficiles, on sent des pressions spirituelles sur nous, des combats, des oppositions. On est là, on a parlé de Jésus à quelqu'un et on a plein d'histoires dans ce coup qui viennent contre nous. Vous croyez que c'est fortuit, c'est par hasard ça? Bien sûr que non. Les ténèbres veulent nous empêcher. D'abord de répandre la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a une chose aussi, c'est que tu risques de te priver d'une partie de ta récompense. Celui qui peut se faire prendre sa couronne, c'est toi. Jésus dit, fais attention, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, que personne ne te prenne ta récompense. Que personne ne te fasse croire que ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Parce que si tu le crois, tu vas perdre ta récompense. Tu vas être sauvé comme au travers du feu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Dieu va nous récompenser? Paul nous parle de couronne.
Paul avuga ibitsibo.
Est-ce que ça va être des couronnes physiques? J'en sais rien.
Mbega n'ibitsibo gucya nyene ku mutwe.
Par contre, il y a deux passages
ariko hari bice bibiri mu ijambo
qui vont nous montrer quelque chose.
Bitubwira ikindi kintu.
On en avait un peu parlé la semaine dernière.
Twari twabivuze ko gato mu ndwi heze.
À propos de la résurrection d'entre les morts.
Ku bijanye no kuzuka kw'abapfuye.
On va regarder 1 Corinthiens 15 41 à 44.
Abikono wa mbere 15, 41 na 44.
Donc 1 Corinthiens 15.
Abikono wa mbere 15.
Et là, Paul nous parle de cette résurrection.
Paulo aratubwira kuzuka.
La résurrection d'entre les morts, la résurrection des justes, la première résurrection. Et il nous dit, verset 40, il y a des corps, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil et autre est l'éclat de la lune. Là, c'est bizarre parce que d'un seul coup, c'est vrai qu'au départ, il dit, voilà, il y a des corps sur la terre. Il y a aussi des corps quand vous levez les yeux vers le ciel. Mais après, il dit, le soleil, il a un éclat différent de la lune. Et les étoiles aussi. Autre est l'éclat des étoiles, verset 41. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Et là, on voit semé méprisable, il dit, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel, vous vous rappelez, on a parlé de ça la dernière fois, et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il associe, bon, il parle du terrestre, il parle du céleste.
Il dit,
bon, il y a des corps sur la terre, ok, ils ont un certain éclat.
Mais
quand on regarde le ciel, la lune, le soleil, la lune, les étoiles, c'est des corps qui ont des éclats différents. Par rapport à ceux de la terre.
Mais
il dit, même les corps célestes, il y en a qui brillent plus que d'autres. Et directement, il embraye, oui, nous avons eu un corps qui est terrestre, mais nous aurons un corps aussi spirituel. Donc il a l'air de nous montrer clairement quelque chose. Que c'est vrai qu'il y a deux types de corps. Il y a le corps naturel. Nous l'avons tous ici pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'anges parmi nous ou de gens déjà ressuscités. Par contre, nous savons que le deuxième corps que nous aurons, ça sera un corps spirituel. Je vous rappelle, incorruptible, mais qui pourra pénétrer à la fois dans le monde de Dieu complètement et à la fois dans le monde naturel. Sans aucun problème. Aujourd'hui, avec ton corps, tu ne peux pas pénétrer dans le monde de Dieu. Tu ne peux que rester à toucher les choses visibles naturelles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, voilà, il y a le corps spirituel, et il compare ça aux astres, aux étoiles. Mais il dit aussi, dans ces corps-là célestes, entre guillemets, dans le ciel, il y a des brillances différentes, des éclats différents. Alors maintenant, on va regarder un texte dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. On a des pistes, on n'a pas de révélation trop claire, il faut le dire. Regardez bien verset 9 maintenant. Il est dit, après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau. Regardez bien, vêtue de robes blanches et des palmes à la main.
Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuri harura bo mu mahanga yose n'imijyango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe.
Ici c'est très intéressant, les robes blanches.
Biraryoshe kubona ngo imvune zera.
C'est bon, c'est vrai que le mot grec là, c'est robe directement.
Mais
le qualificatif, la blanche, ça ne ressort pas très bien. Plutôt, ça serait mieux de traduire d'un éclat brillant.
Voilà. bavuga ngo imvune zera ni nkaho bavuga bati imvune zifise ukuntu zikayangana.
Parce que vous voyez par exemple on peut voir quelque chose qui est blanc, on dit tiens ça c'est une couleur une robe blanche.
Washobora kubona iki kintu kavuga kuti iyo ni kanzu yera.
Ça nous indique sa couleur.
Bikatwereka ibara ryayo.
Mais si je vous dis c'est une robe blanche mais c'est très brillant.
Ariko ndashobora kuvuga nti ni kanzu yera mugabo ifise gukayangana.
Vous verrez la différence entre une robe blanche simple. Urumva
hari ubudasa hagati kanzu yera
isanzwe. Et une robe blanche brillante.
Ni kanzu yera ikayangana.
Ça veut dire qu'elle émane un éclat.
Bisobanura ngo hari irafise gukayangana kuri.
Et c'est exactement ce que le texte grec nous dit ici.
Nico rero ngaha mu kigiriki bariko baratubwira.
Et il est clair en tout cas avec ces textes quand on les rapproche.
Biraboneka iyo ugaragaje kwegeranya ibi bice
que nous allons avoir des grades entre guillemets dans le royaume futur.
Biraboneka yuko tuzoba dufise amapete atandukanye mu bwami buzoza.
Rappelez-vous que quand il va y avoir la fin de la tribulation, je vous expliquerai ça avec précision. Jésus revient à la fin de la tribulation, au bout de 7 ans, Jésus revient pour Israël. Et là, qu'est-ce qu'il va faire?
Bon,
il va mettre le diable hors d'état de nuire.
Nous
et on va rentrer dans le millénium. Le millénium, c'est condition de la terre telle qu'elle est là, avec toutes les destructions qu'il y aura eu. Mais Jésus qui va venir régner à Jérusalem pendant 1000 ans. Ça va être le millénium. Et nous allons régner avec lui. Mais dans un royaume,
Mubgami,
il y a des sujets.
Hariho abatwagwa,
et ces sujets
kandi abatwagwa,
ont des positions différentes.
Ugasanga barafise ukuntu basumbana,
des positions d'autorité différentes.
Ubutegetsi bugasumbana.
La Bible nous dit que nous allons paître les nations avec une verge de fer.
Bivuga ngo tuzotwaza amahanga
en régnant avec lui.
Inkoni y'icuma tuzoganzanya na Yesu.
Et nous allons avoir des positions différentes.
Tuzoba dufise ibibanza bitandukanye.
Puis après dans l'éternité.
Hama mu bihe bizokwamaho.
Il est clair que nous aurons à partir du moment il y a une différence entre être ressuscité et avoir un corps glorifié. Jésus, quand il est ressuscité, après il a été glorifié. Quand Jésus reçoit, comment dire, quand il ressuscite, il apparaît aux disciples, ils sont pas, bon, ils voient comme ça. Parce qu'il est ressuscité. Après, il va définitivement à la droite du Père. Et là, quand il apparaît à Jean, là, Jean tombe par terre. Parce que Jésus est dans la gloire. Et pour nous, c'est la même chose. La première étape, c'est ressusciter d'entre les morts. La deuxième étape, c'est de recevoir nos récompenses. Donc, on pourra se repérer les uns les autres par notre éclat. Et là, ça sera selon le critère de Dieu. Non pas selon le critère des hommes. Le critère de Dieu n'est pas le critère des hommes. Tout ce que nous aurons fait sur cette terre en tant que chrétiens, depuis que nous sommes chrétiens jusqu'à notre
Christ,
dernier jour, Dieu va nous le compter, puis en faire du tri et nous donner une récompense, un éclat qui correspondra à la position dans le royaume. Et cette position nous servira de régner plus ou moins près du Seigneur pendant le millénium, mais aussi après, pendant l'éternité, quand Christ aura recréé, renouvelé la surface de la terre et recréé de nouveaux cieux, renouvelé les cieux aussi.
Nous verrons aussi cela.
Donc, tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur, depuis que tu es de nouveau, ça t'est compté pour ta récompense, ou peut-être ça ne compte pas. C'est peut-être nul. Il y a des choses pour lesquelles tu travailles durement en disant je fais ça pour le Seigneur, mais sois bien sûr que ce soit pour le Seigneur selon les critères divins, parce que là tu auras une récompense pour ça. Apprends à travailler efficacement pour le royaume.
Vous savez,
il y a des chrétiens parfois qui sont dans des suractivités totales, dans des programmes et des programmes et des programmes.
Mais
Dieu s'en fiche de nos programmes. Dieu ne bénit pas tes programmes. Il bénit ses plans. Et quand tu es dans ses plans, là tu mets quelque chose à ton compte
pour
ta future récompense.
Pensez
toujours à l'éternité. La prochaine fois, nous verrons le troisième pilier que nous devons connaître avant de pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer dans la tribulation. Et nous parlerons des 70 semaines d'année de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.